Donc, les négociations finalement aboutissent, puisque, eh bien, le 12 juillet 1870, Léopold, qui, on l'a vu, n'était pas très chaud pour prendre cette couronne d'Espagne, hein, eh bien, convaincu par son oncle, probablement, dans le souci de la paix, eh bien, il renonce à la couronne, il se désiste de sa candidature. Donc, l'Espagne notifie la nouvelle à la France, à notre ambassadeur de France, donc, et donc c'est Émile Ollivier qui est président du conseil à l'époque, chef du gouvernement, qui en donne lecture, qui en informe le corps législatif. Et donc Napoléon III, en fait, se réjouit, il est soulagé, c'est la paix. Et il a à peu près 63 ans, il a 63 ans à l'époque, il est malade, il est vraiment pas en bonne forme, et donc, bon, il n'a pas envie de guerre, de même que son cousin, entre guillemets, Guillaume, c'est ainsi qu'il s'appelle. Mais son épouse, Eugénie, veut la guerre avec d'autres, hein, avec Garmont, le ministre des Affaires étrangères, avec Leboeuf, le ministre de la guerre. Elle est vent debout, elle dit, par exemple, eh bien, l'Empire part en quenouille, voilà. C'est une volonté de fermeté, mais quelle inconscience. Et donc, Grammont, Napoléon III, Eugénie, ce petite réunion en comité secret, et c'est à Saint-Cloud, là Napoléon va se laisser faire, parce qu'il est faible, on l'a dit, vieillissant, malade, et donc il ne s'est pas imposé cette volonté de paix qu'il a. Et donc, petit comité, et alors là, un nouveau télégramme est rédigé, qui, par lequel, eh bien, on enjoint à notre ambassadeur Benedetti de revenir à la charge auprès de Guillaume et pour obtenir de celui-ci alors un engagement définitif, à savoir que pour l'avenir, plus aucun prince prussien ou allemand donc ne pourra solliciter un trône quelconque, hein, notamment le trône d'Espagne. Donc un renoncement définitif et sans condition. Et donc là, on sait que c'est extrêmement maladroit, mais bon, c'est ce qui va entraîner donc un enchaînement fatal qui sera utilisé par Bismarck. Alors bon, je voudrais vous lire ce texte du communiqué, mais voilà, je vais peut-être le... qui est d'une extrême, bien sûr, maladresse, hein, voilà. Donc, c'est ce 12 au soir, ce 12 juillet, donc à Saint-Cloud, que Napoléon III, avec l'impératrice et puis le dit Grammont, ministre des Affaires étrangères, à l'insu des ministres et du président du Conseil, donc Émile Ollivier, rédige ce télégramme provocateur et maladroit, d'une insigne maladresse, destiné donc à Guillaume et à c'est les instructions donc à Benedetti, à savoir, deux points, ouvrez les guillemets, pour que la renonciation du prince Antoine, c'est le père de Léopold, produise tout son effet, il paraît nécessaire que le roi de Prusse s'y associe et nous donne l'assurance qu'il n'autoriserait pas de nouveau cette candidature. Veuillez vous rendre immédiatement auprès du roi pour lui demander cette déclaration. Voilà. Et donc ça relance, après la paix assurée, eh bien, ça relance le risque de guerre, cette nouvelle exigence. Donc, Benedetti va accomplir sa mission. Et alors là, ça sera assez laborieux. Je ne vais pas revenir sur toutes les péripéties. Bon, le 13 juillet 1870, à Ems, où Guillaume fait sa cure, Benedetti rencontre le roi, comme ça, dans un couloir. Enfin, lui fait part de son... lui demande d'ailleurs une audience et lui fait part donc de sa mission. Et donc là, il y a un refus d'emblée de Léopold, de Guillaume, qui déclare, eh bien, puisque Léopold a renoncé, je considère que l'affaire est close. Et d'ailleurs, elle sera définitivement classée dès que j'aurai son renoncement officiel. Voilà. Et donc, une audience est prévue dans la journée. Or, à 14h, eh bien, c'est simplement un aide de camp du roi, Guillaume qui apporte à Benedetti une simple note qui confirme que le roi a reçu la renonciation officielle de son neveu et donc qui considère l'affaire classée et qui ne veut pas donc s'engager au-delà. Et donc Benedetti qui est harcelé par Gramont, son ministre, eh bien revient à la charge, redemande une audience et en fait au final eh bien le roi refuse cette audience et donc il rencontrera sur son invitation, Guillaume, à la gare, puisque Guillaume doit se rendre à Coblence pour rendre visite à l'impératrice. Voilà. Mais le 13 juillet, au soir, alors Bismarck, avec von Rohn et von Moltke, Bismarck est très déconfit parce qu'il sent qu'il n'aura pas sa guerre, que la paix est assurée depuis la renonciation de Léopold. Très déçu. Il reçoit communication de la dépêche du roi. Enfin, c'est un compte rendu, si vous voulez, du souverain, de ses relations avec Benedetti. Et alors, c'est un texte que Bismarck, qui est très correct et normal, où le roi indique qu'il a refusé donc de consentir à ce que demandait Benedetti, à savoir cet engagement définitif pour l'avenir. Et sans condition. Et là, Bismarck va transformer subtilement le texte, sans vraiment le on parlera d'un faux, parce qu'il en changera véritablement le sens, juste en modifiant un peu le style. Et donc, ce texte, qui va devenir dès lors honteux, humiliant pour la France, va être publié dans la presse. Et c'est ce texte-là qui sera vraiment le chiffon rouge sur lequel va se jeter le taureau français. Alors je vous donne un petit peu lecture. Ça, c'est vraiment c'est de la diplomatie, en fait. C'est la ruse de Bismarck qui transforme ce compte-rendu interne, en quelque sorte, et qui le rend inacceptable. Alors voilà, mais je ne vais pas vous lire tout le... parce que c'est un peu long. Donc, voilà. Sa Majesté le Roi m'écrit. C'est donc, en fait, le texte qui est donné à un représentant de Bismarck par Abeken, qui est rédigé donc, à la demande du roi. Voilà. Donc c'est le texte initial. Sa Majesté le Roi m'écrit, le comte Benedetti me saisit au passage à la promenade et finalement, d'une manière très importune, exigea de moi que je l'autorisasse immédiatement à télégraphier que je m'engageais pour l'avenir à ne plus jamais donner mon consentement si les Hohenzollern revenaient de nouveau sur leur candidature. Je lui objectai pour la dernière fois, sur un ton assez sérieux, que je ne pouvais ni ne devais prendre un tel engagement à tout jamais. Naturellement, je lui ai dit que je n'avais encore rien reçu et que, lui étant informé plutôt que moi par Paris et Madrid, donc du renoncement de Léopold, il voyait bien que mon gouvernement était de nouveau hors de cause. Sa Majesté a depuis ce temps reçu une lettre du prince. Alors Sa Majesté, qui avait dit au comte Benedetti qu'elle attendait des nouvelles, a daigné décider, vu l'exigence ci-dessus mentionnée sur un rapport au comte de Lenburg et de moi, de ne plus recevoir le comte Benedetti, mais seulement de lui faire dire par un aide de camp que Sa Majesté, ayant reçu du prince confirmation de la nouvelle que Benedetti avait déjà reçue de Paris, elle n'avait rien de plus à dire à l'ambassadeur. Voilà. C'est la fin de ne recevoir, mais bon, c'est pas incorrect, enfin c'est pas honteux pour l'ambassadeur et pour la France. Sa Majesté s'en remet à votre excellence pour décider si la nouvelle exigence de Benedetti et le refus de Sa Majesté ne doivent pas être immédiatement communiqués à nos ambassadeurs comme à la presse. Alors Bismarck, qui est là avec von Moltke et donc le chef d'état-major et von Rohn, le ministre des Affaires étrangères, il saisit d'un crayon et fait subir à la note quelques modifications qu'ils font considérer comme faussaires. En fait, il change pas le fond, mais c'est le style et la forme qui deviennent très humiliants pour la France. Alors voilà ce qu'il écrit. Après que les nouvelles de la renonciation du prince héritier de Hohenzollern eurent été communiquées au gouvernement impérial français par le gouvernement royal espagnol, l'ambassadeur français à Ems a exigé de nouveau de Sa Majesté le Roi pour tout l'avenir qu'elle s'engage à ne plus jamais donner son autorisation si les Hohenzollern revenaient de nouveau sur leur candidature. Là-dessus, c'est là que ça fait mouche, c'est là le coup de poignard. Là-dessus, Sa Majesté le Roi a refusé de recevoir encore une fois l'ambassadeur et a fait dire au même, par l'aide de camp de service, que Sa Majesté n'avait plus rien à communiquer à l'ambassadeur. Et d'ailleurs, aide de camp est traduit, ça c'est thermalement, adjudant signifie aide de camp et aussi adjudant. Et c'est traduit en français par adjudant. Donc c'est absolument, ce texte est inacceptable, c'est presque insultant pour la France. Hein, voilà. Et donc, on en est dans cette situation. Ce texte donc va être publié, et donc avec sa teneur très choquante. Et je répète, on a en quelque sorte l'image d'un ambassadeur éjecté par le roi, de Prusse. Hein. Voilà. 14 juillet 1870, publication du texte par Bismarck dans la Gazette d'Allemagne du Nord. Grammont, donc le ministre des Affaires étrangères français, l'a en main. Il le remet à Olivier, qui est président du Conseil. Alors là, il y a un conseil aux Tuileries. Et là aussi, malgré cela, Napoléon veut la paix. Donc, conseil aux Tuileries avec Grammont, Affaires étrangères, Leboeuf, ministre des Armées, et Eugénie. Et là, donc, il y aura ce conseil du 14 juillet et 15 juillet, qui se poursuivra toute la nuit. Donc, voilà. Et donc, là, est évoqué, encore une fois, tentative pour maintenir la paix, un projet de congrès de paix avec les grandes puissances, bien sûr la Prusse, la France, l'Angleterre, etc. Voilà. Et au terme de ce congrès, peut-être, l'idée, ça serait de faire en sorte qu'une règle internationale soit fixée par laquelle aucun prince d'une famille régnante ne pourrait candidater, on va dire, à un trône étranger. Voilà. Donc, les ministres sont favorables, l'empereur les fait voter. Mais à un moment, il est en mauvaise santé, on l'a dit, il doit s'absenter, il a un malaise. Il quitte la salle et à peu près il a 30 minutes d'absence. Et pendant ce temps, eh bien, c'est probablement l'impératrice qui active les ministres, soutenus par les deux que je viens de nommer. Et lorsque l'empereur revient, eh bien, il fait voter et le conseil des ministres rejette cette proposition de congrès à une majorité de 4 voix. Donc, on va vers la guerre. La guerre va bientôt être déclarée. On appelle les réservistes. Paris exulte. Hein. Paris est noir de monde et abat la Prusse, voilà, etc. À Berlin, quoi. Le 19 juillet, la déclaration de guerre est prononcée contre la Prusse. Et donc, malgré les tentatives ultimes de Thiers, de Gambetta, de Fabre, qui sont donc des républicains et qui n'aboutissent pas. Et donc la France, là, part seule dans ce combat, elle est faible, elle est isolée et aux yeux du monde, elle est l'agresseur. Et donc ça va être le désastre. Nous y revenons après la pause musicale.